Bonjour, et bien nous nous retrouvons avec Monsieur Bourges Mounouri pour l'émission Bienvenue en Europe. Et vous entendez sur le fond l'hymne européen. C'est d'autant plus intéressant puisque cela fait 25 ans qu'il y a eu la chute du mur de Berlin et donc quelque chose qui a été très très important pour l'Europe. Alors je crois qu'on peut commencer par fêter cet anniversaire. Bon anniversaire l'Europe, et puis ça veut dire l'ouverture vers la réunification de l'Allemagne, bien sûr, on va en parler, mais ça veut dire aussi que les pays d'Europe de l'Est ont pu rejoindre l'Europe. Alors, évidemment, ça cause quelques problèmes aujourd'hui lorsque, en allant de plus en plus vers l'Est, d'autres pays qui sont géographiquement de l'Europe mais qui étaient attachés à la Russie souhaitent venir vers l'Europe. Mais parlons, réjouissons-nous d'abord.
Oui, il faut se réjouir, et surtout dans cette période où on critique beaucoup l'Europe, quitte aussi à reprocher que l'Europe se soit élargie aux pays de l'Est, c'est oublier le contexte historique de l'époque et aussi les retombées qui sont suivies, et y compris jusqu'à maintenant. Et ces retombées ne sont pas du tout négatives si l'on regarde les chiffres, et en particulier les statistiques économiques, parce que ces pays qui ont rejoint l'Europe après... dans le contexte de la chute du mur de Berlin et de l'effondrement du régime soviétique, il y a eu véritablement un redressement et un enthousiasme absolument extraordinaire. Alors, il est clair que ça a créé une situation nouvelle, parce que le nombre d'États membres au sein de l'Union européenne a quasiment doublé. Et donc, il y avait des problèmes de gestion que l'on continue à gérer encore à l'heure actuelle, ce qui nous amènerait dans un autre débat sur le futur de l'Union européenne.
Puis il y a aussi des inégalités. Finalement, le gâteau était à partager entre beaucoup, entre plus nombreux. Donc, ce n'est pas que la part était plus petite, mais il y avait des besoins plus pressants en Europe de l'Est, donc un peu moins d'argent disponible pour les autres.
Exactement. Enfin, il y a eu des fonds qui ont été débloqués pour les aider, bien sûr, mais pas en proportion, finalement. Enfin, ça a été une période très difficile à gérer sur le plan économique, mais extraordinairement enthousiasmante. Et en ce qui concerne les symboles, je trouve cela absolument extraordinaire. On devrait quand même en faire même des émissions, par exemple, à la télévision. Il est quand même dommage qu'on ne nous ait pas préparé des programmes pour nous rappeler le contexte et tout ce que cela signifiait. Rappelons-nous quand même ce partage de l'Europe en deux, avec ce fameux mur qui était infranchissable, et les Allemands de l'Est ont dû payer de leur vie chaque fois qu'ils essayaient de le passer, sauf cas véritablement d'exception à l'unité près. Donc on est dans un contexte où l'Union soviétique touche à sa fin, mais personne ne le savait encore, et ça a été une véritable surprise. Alors, sans refaire toute l'historique de cette situation, rappelons quand même que l'affaire est quand même partie de Pologne avec Solidarność, donc ce syndicat polonais extrêmement fort, et qui a mobilisé des millions de gens dans les rues de Varsovie. Donc il y a eu, du côté de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie, de l'époque, c'était pas encore la Tchéquie plus la Slovaquie, il y a eu du côté des pays baltes, il y a eu de tous les pays de l'Est de l'Europe, des mouvements extraordinaires de rue, les citoyens descendaient et disaient « on veut la liberté ». Et donc il y a eu des étapes qui se sont produites. Face à cela, il y a eu des craintes que l'on se retrouve comme autrefois avec l'armée soviétique qui se mettait à débarquer avec ses chars comme à Budapest en 56. Et là, il faut dire que c'était le miracle de l'époque, c'est que à la tête de l'Union soviétique, il y avait quand même un homme qui s'appelait Gorbatchev, qui lui a laissé faire en quelque sorte, parce qu'il croyait en un renouveau de son pays à travers plus de liberté, et donc il a laissé faire en quelque sorte,
et liberté,
cette
oui.
grande révolution s'est passée finalement de manière extrêmement pacifique. Mais donc on était dans un contexte absolument très inquiétant quand même quand tout cela s'est passé. Alors Kohl a été le chancelier allemand d'une efficacité extraordinaire. Jacques Delors, à la Commission européenne, a tout fait ce qu'il pouvait pour faciliter le dialogue avec les Russes, avec les Allemands, les deux Allemagnes.
Et enfin, si les deux bien... Allemagnes, c'était quelque chose d'extraordinaire, parce que personne n'imaginait ça. On imaginait qu'elles pourraient coopérer davantage, mais au point de fusionner.
Et ils ont fusionné de manière absolument accélérée, parce que donc le mur, la chute du mur, ce que l'on a fêté au mois de novembre, c'était le 9 novembre. Le 9 novembre, eh bien, 1989, ce mur, tout d'un coup, s'est ouvert, a laissé passer les Allemands de l'Est, qui se sont précipités en masse. Peu après, certains sont venus avec des pioches pour essayer de le démolir. Il y a eu un laisser-faire et... Tout cela s'est passé finalement dans un enthousiasme inouï avec cela, il y a eu les discussions entre les deux représentants allemands, Kohl d'un côté, les autres de l'autre, et finalement on est arrivé à la fusion des deux Allemagnes en même pas un an. C'est absolument inouï. Les deux Allemagnes, c'était le 3 octobre 90. Un an après, enfin un peu plus, mais tout cela s'est passé d'une manière fulgurante. Il y avait un problème qui se posait pour l'Union européenne, c'est que comment faire pour reconnaître une Allemagne qui était complètement changée? Il n'y avait pas de traité d'adhésion pour l'Allemagne de l'Est, donc les Allemands se sont mis d'accord pour fusionner. Et moi je peux témoigner parce que j'ai été parmi ceux qui ont eu la chance de pouvoir aller à Berlin-Est, au moment où il y a eu au tout début, où il y a eu le changement, les Allemands ont pu donner leur Ostmark contre des Deutschmark. Et je n'oublierai jamais, en passant du côté de l'Est, cette ambiance complètement d'un autre monde, figée, bétonnée, par rapport à l'Ouest, où là, on voyait une certaine luxuriance à laquelle on ne se rend même plus compte, ici, en Occident, parce qu'il y a des magasins partout. Du côté de l'Est, ça semblait assez sinistre, pour parler franchement. J'avais logé, d'ailleurs, dans un hôtel qui était avec des ascenseurs ouverts, dans les années 1930, qui continue perpétuellement à monter et descendre sans s'arrêter. Il faut sauter dedans quand ça monte, ce qui est d'ailleurs au niveau sécurité extrêmement dangereux. Et je n'oublierai jamais ces files interminables d'Allemands de l'Est qui faisaient la queue pour changer leur malheureux Ostmark qui valait rien, mais que Kohl, dans sa générosité, a dit « Je donne un Deutschmark contre un Ostmark », ce qui a valu à l'Allemagne 10 ans de difficultés pour remonter la pente.
C'est ça que je trouve qui est remarquable quand même, c'est qu'il y a eu cette générosité allemande extraordinaire, puisque cet accueil, et cette, y compris enfin, politiquement et économiquement, et je crois qu'il ne faut pas l'oublier, parce que dans notre... lorsqu'on juge Mme Merkel, qui d'ailleurs vient de l'Est, nous n'oublions pas, il y a quand même eu cet élan et cette construction qui peut nous réjouir quand même, parce que quand on dénigre l'Europe, regardons un peu le positif.
Non, et puis ce positif, il faut le dire, il s'est propagé alors à tous les autres pays.
Oui.
Budapest, Prague, Varsovie. Je me souviens aussi de cette époque où j'étais un fonctionnaire européen. J'ai eu la chance aussi d'être envoyé en mission à Budapest, en particulier à Prague aussi. J'étais parmi les premiers Européens, entre guillemets, à débarquer là-bas. Je me souviens de l'enthousiasme des foules. J'avais les caméras de télévision, tout le monde qui se précipitait pour voir enfin quelqu'un qui venait de l'autre côté. Il y avait un enthousiasme. Les gens descendaient dans la rue, étaient prêts à sortir les drapeaux européens. Ils voulaient tous se dire « mais on est frères, c'est à nouveau l'Europe qui va se reconstituer ». Et donc ce mouvement était absolument fabuleux. Alors cela ne s'est pas toujours passé très bien, puisque l'on sait que du côté de la Roumanie, là, ça a été un peu plus dramatique. Mais il se trouve qu'au bout du compte, 2 ans après, il n'y avait plus ni d'Union soviétique, il y avait... des pays qui étaient libres.
Qui avaient des traités particuliers.
Avec des traités particuliers. Alors Jacques Delors a tout fait de son côté pour accélérer les choses, pour faciliter symboliquement cette ouverture de l'Ouest à l'Est et de reconstituer en fait l'unité du continent qui avait été stoppé par la dernière guerre et ensuite le régime stalinien. Donc il y a quand même, sur le plan historique et de la dimension des symboles, quelque chose de très très fort qu'il ne faudrait pas oublier et que l'on voit après, en disant 25 ans après, oui bon, il y a ce mur, il est tombé, d'accord, oui, mais non, il y avait quelque chose, c'était une révolution historique. Il faut voir que, alors maintenant, évidemment, les relations avec la Russie sont, on pourrait en parler longuement,
figées.
Elles se sont à nouveau refroidies, c'est le moins que l'on puisse dire.
La paix froide.
Mais quand on voit qu'en Ukraine, il y a encore des gens qui ont, il n'y a pas si longtemps, descendu en masse dans les rues avec le drapeau européen dans les mains, c'est quand même très fort. Et donc on est dans ce contexte, on ne se rend pas toujours compte à l'ouest de la chance que l'on a de vivre en dépit des difficultés du fait de la crise actuelle économique, mais sur le plan des populations, eh bien, il faut véritablement faire un devoir de souvenir, de mémoire à cet égard.
L'amour est solide comme la glace, mais au fond, l'amour fond comme les petites marionnettes, ainsi font, font, font. T'as éternellement soif, soif de tomber sous le charme, une passion qui décoiffe. T'aurais même bu mes larmes. L'amour est solide comme la glace, mais au fond l'amour fond comme les petites marionnettes, ainsi font, font, font.
Eh bien, après avoir parlé, évoqué cette fête européenne autour des 25 ans de l'abolition du mur et donc de l'ouverture large de la communauté européenne à l'Europe, qui est aujourd'hui l'Europe des 29, on peut parler aussi de l'autre succès européen. Commençons par les succès, allez, puisqu'on est dans la bonne...
Alors,
dans l'aspect positif.
Mais parlons par exemple
de l'aérospatiale.
L'aérospatiale, la mission Rosetta. Alors, on en a... pas mal eu d'écho dans les médias ces derniers temps, puisque cette fusée envoyée avec ce robot Philea qui s'est posé sur une comète à des années-lumière, je dirais, de la planète Terre, ça a été un succès extraordinaire. Les médias en ont pas mal parlé. Mais je crois que c'est l'occasion de montrer que l'Europe, quand elle s'organise, quand elle se coordonne, quand elle met des moyens en commun pour élaborer un projet, eh bien, cela aboutit à du succès. Et c'est finalement une image symbolique de ce que devrait être notre construction européenne. Alors certes, l'Europe spatiale, à travers l'ESA, qui est l'Agence spatiale européenne,
n'a
pas tellement de moyens, puisque ces moyens dépendent des États membres, qui évidemment essaient toujours de diminuer ou de
qui
maîtriser
leurs contributions, mais
exactement,
quand même.
Mais il y a des succès. Et ceci montre que précisément dans les périodes de crise, il y a matière à réflexion. Lorsque l'on s'unit, eh bien, selon le bon vieux proverbe, l'union fait la force. L'Europe, dans le monde, peut représenter, être un acteur absolument incontournable et de premier plan, mais si on se présente tous en ordre dispersé, alors il n'y a plus rien et nous ne sommes plus rien à l'échelle planétaire. Donc ceci devrait être une leçon à méditer et c'est un bel exemple pour une fois où l'on peut parler de l'Europe d'une manière aussi positive.
J'ajouterais qu'en fait, l'Agence spatiale européenne s'est constituée aussi lorsque la NASA a abandonné les projets pour lesquels il y avait une association avec l'Europe. Et du coup, on s'est dit, ben, on peut peut-être faire quelque chose ensemble. Alors c'est ça qui est un peu dommage, me semble-t-il. C'est qu'en fait, parce que la NASA avait abandonné son plan, ses plans spatiaux qui coûtaient trop cher, finalement, les Européens se sont dit « unissons-nous ». Alors peut-être que les peuples européens peuvent se dire que c'est à eux de demander à leurs gouvernants d'être un peu plus en avance pour que les décisions concernant le budget, les affaires qui fâchent, eh bien, il y ait ces harmonisations européennes, cette structure européenne quand même.
Mais surtout si l'on prend les chiffres budgétaires, comme vous venez de l'évoquer un instant, c'est que si on compare le budget de l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, avec celui de la NASA, cette année, 2014, il y avait 4 milliards d'euros pour l'Agence spatiale européenne, contre 15 milliards du côté américain de la NASA. Et nous, avec ces 4 petits milliards, alors il est vrai que la fusée qui a envoyé la mission Rosetta remonte à 10 ans en arrière, mais ceci montre quand même la disproportion des moyens. Ben, même avec peu de moyens, quand on se met ensemble, on peut faire de très grandes choses.
Voilà, alors ça c'était l'aspect, cocorico, non pas cocorico, hymne européen. Et parlons un peu des autres nouvelles, puisque finalement une nouvelle équipe est entrée en fonction. Et parlons aussi de ce qui fâche, puisqu'il y a l'affaire Juncker.
Oui, alors on a, en ce début novembre, la nouvelle Commission européenne, celle de Jean-Claude Juncker, ancien Premier ministre luxembourgeois, a pris ses fonctions à Bruxelles avec un personnel complètement renouvelé. Il y a eu cette opération, donc qui s'est, au niveau des médias, il y a eu la mise en avant du fait que le Luxembourg avait pratiqué pendant des années une politique très favorable à la défiscalisation de certains placements. Et ceci a été reproché à Jean-Claude Juncker, qui autrefois avait dirigé le Luxembourg. Il s'en est défendu. Le 12 novembre exactement, il a pris la parole devant la presse et le Parlement européen pour dire que, au contraire, lui avait toujours été pour l'harmonisation fiscale en Europe et que c'est là où est le problème, mais que légalement, il n'y avait aucune interdiction à ce qu'un État propose des mesures plus favorables selon ses intérêts, pour attirer des capitaux, des investissements. D'ailleurs, on pourrait également dire que
la même chose de la Grande-Bretagne et de la City.
La City de Londres, l'Irlande, qui pratique une politique fiscale absolument attractive dans ce cadre d'idées. Même la France, on oublie de le dire, parce qu'on a la critique facile chez nous, mais quand il s'agit par exemple des opérations de football où on défiscalise totalement tous les investissements, l'État français ne cherchant pas à prendre des impôts, à prélever des impôts sur ses investissements, eh bien il fait exactement pareil que le Luxembourg. Donc à travers cette affaire, ce qui est révélé, c'est le fait qu'il n'y a absolument pas d'harmonie entre les différents États membres et que ceci pose des problèmes que l'on peut évidemment comprendre facilement. Et l'aspect positif, c'est de voir que la Commission européenne s'est engagée à tout faire pour aller dans le sens
d'une plus
grande
harmonisation.
Et M. Juncker a chargé d'ailleurs, c'est assez intéressant à souligner, il a chargé M. Moscovici en tant que commissaire à lui présenter une proposition de directive allant dans le sens d'une harmonisation. Donc on verra quelle sera la suite des affaires là-dedans. Rappelons simplement aussi qu'il ne faudrait pas que cette affaire-là soit vue, soit plutôt occulte. Tout ce qui est en train d'être mis en place à travers cette nouvelle commission, et comme M. Juncker l'a dit lui-même, c'est une dernière chance pour l'Europe dans le contexte actuel. C'est-à-dire qu'il veut assurer la relance de la croissance et de l'emploi et de l'investissement à travers un grand plan d'investissement avec la mobilisation de quelque 300 milliards d'investissements publics et privés. Donc il s'agit de quelque chose d'extrêmement important et que l'on va suivre. Et d'ailleurs, pour la fin de l'année, normalement, il devrait y avoir sur la table des propositions. Donc le premier chantier à venir, c'est celui de la croissance et surmonter ce que l'on appelle peut-être parfois à tort de certaines cures d'austérité qui ont été imposées à tout le continent européen. Il faut dire aussi sous pression allemande, ne le cachons pas. Mais maintenant, même l'Allemagne se trouve pas nécessairement en bonne position, d'après les chiffres du commerce extérieur et de la croissance. Et donc, il y a un nouveau plan de relance. Le second point, c'est évidemment comment renouer avec, disons, la capacité de l'Europe à se faire entendre d'une seule voix à l'extérieur. Donc sur le plan intérieur, il faut un grand rebond, et sur le plan extérieur, s'affirmer de manière unie. Et là, lorsque l'on a parlé tout à l'heure des questions avec la Russie, voire l'Ukraine, eh bien, et dans d'autres cénacles, comme le G20 ou ailleurs, il est important que l'Union se présente unifiée pour répondre à la définition propre de l'Union européenne.
Attendait tant bien que mal, comme un héros sur son cheval, l'homme de l'automne. Desperado à la dérive, pour nous délivrer de la crise et de la maldonne. Il avait fait rougir octobre, avant de faire le tour du globe, l'homme de l'automne. Il avait fait passer l'hiver, loin de jadis, loin de la guerre, l'homme de l'automne. Il arrive, il passionne, il enivre, l'homme de l'automne. Il délivre, il pardonne, il arrive, l'homme de l'automne. Après l'été, les la mendicité et l'action qui dégringole. La nature laisse tomber ses feuilles et le pays son portefeuille. On abandonne. En attendant l'homme de l'automne, pour ne pas tomber dans les pommes, on se questionne. Y'a plus de saison, plus de surhomme, juste un mannequin sur les podiums, l'homme de l'automne. Il arrive, il passionne, il enivre, l'homme de l'automne. Il délivre, il pardonne, il arrive, l'homme de l'automne.
Pour la troisième partie de l'émission, eh bien, nous allons retrouver aussi quelques aspects de notre vie quotidienne traités par la Commission européenne ou quelques nouvelles. Alors, BCE.
Oui, la Banque centrale européenne a annoncé le 6 novembre qu'elle allait prendre de nouvelles mesures, notamment, par exemple, sous la forme de rachats d'obligations d'entreprises ou publiques sur le modèle américain. Donc ceci est absolument novateur et a été salué évidemment comme il se doit par toutes les bourses internationales. Ceci conforte la position de l'euro. Alors sans entrer dans les débats techniques, les questions tout à fait spéciales que cela implique, ce qui est important, c'est de montrer que la Banque Centrale Européenne fait tout à la fois pour soutenir la croissance en Europe, pour qu'il y ait ce rebond qu'on a évoqué il y a un instant, et également de déterminer même d'autres mesures que M. Draghi, qui préside cette institution, a souligné, de mesures non conventionnelles. Donc du côté de la Banque Centrale Européenne, on est prêt littéralement à tout faire pour que l'euro ne soit plus jamais mis en danger et que parallèlement, tout soit fait pour relancer l'économie européenne. Alors ceci d'ailleurs est à mettre en parallèle avec les relations avec les banques, parce qu'il y a également ce mois-ci, même le 4 novembre exactement, il y a eu l'entrée officielle en fonction du nouveau mécanisme de surveillance unique, qui est un système de supervision bancaire européen. On en a parlé à l'une ou l'autre émission.
Oui, ça remplace les BAL 1, BAL 2, BAL 3.
Voilà, il y a donc là aussi un renforcement des garanties par rapport aux dérives antérieures, pour faire en sorte que, parce que c'est là où est le fond du problème, c'est que pour ne plus jamais se retrouver dans les situations où les citoyens doivent mettre la main à la poche et d'abord les États aussi, en cas de faillite bancaire, eh bien il y a une coordination, un fonds propre interbancaire pour que tout ceci puisse se mettre en place. Et à travers ce mécanisme de surveillance, eh bien il y a ce que l'on appelle des tests qui sont opérés régulièrement, supervisés par la Banque Centrale Européenne, pour vérifier que le réseau bancaire européen soit le plus efficace possible et le plus sûr possible. Donc tout ceci constitue quand même si c'est technique, des nouvelles intéressante, d'autant plus que parallèlement, la Commission européenne, également en début novembre, a présenté ses prévisions économiques en légère croissance. Alors évidemment, ce n'est pas fameux, mais on n'est plus dans les situations antérieures. Et la Commission également, à travers la voix de M. Juncker, donc cette nouvelle Commission, a également, elle aussi, appuyé sur le fait qu'elle utilisera tous les outils et les ressources à sa disposition pour créer plus d'emplois et de croissance en Europe. Et donc, elle va tout faire en sorte pour que le fameux plan d'investissement promis par M. Juncker soit mis en place le plus rapidement possible. Et donc, voilà où on en est. Au niveau de la zone euro, eh bien, les chiffres sont modérés. Mais l'inflation risque d'être très faible, ce qui, pour le citoyen, est quelque chose qui est finalement pas nécessairement négatif, puisque au moins l'argent qu'il a dans sa poche ne perd pas de sa valeur. Mais au niveau de la dimension intérêt étatique, là il y a des problèmes, parce que qui dit manque de croissance dit moins de possibilités,
moins d'impôts et moins de facilité de remboursement.
Et de possibilités, surtout, de rebond sur le plan économique. Donc il faut de la croissance, et pour cela, l'inflation est quand même un des éléments qui permet cette croissance. Alors il faut regarder...
Pour finir, on peut parler du tourisme social. Oui, pardon, je... Vous...
Oui, alors l'affaire du tourisme social, on en a parlé ces derniers temps parce que la Cour de justice de l'Union européenne a pris un arrêt qui indique qu'elle a... C'était le 11 novembre, pour indiquer que un citoyen européen ne pouvait pas prétendre à des prestations sociales dans un autre pays membre s'il n'était pas lui-même en mesure de justifier un lien réel avec son pays de résidence. Donc là, cela est important pour l'avenir. On verra qu'est-ce que la jurisprudence qui va en découler, qu'est-ce que cela donnera au niveau des questions d'immigration à l'intérieur de l'Europe. Mais ceci est un pas vers sans doute plus de justice par rapport à la situation actuelle, des mouvements de travailleurs, des mouvements de personnes à l'intérieur de l'Union européenne. Il est clair que là aussi, ce qui est visé derrière, c'est le besoin de plus d'harmonie. S'il n'y a pas plus d'harmonie au niveau fiscal, social, notamment, eh bien, il est clair qu'il y aura toujours un certain nombre de problèmes et des injustices. Donc ceci est un bon point pour l'Europe, là aussi.
Bien voilà, aux auditeurs, je dis à la prochaine émission dans un mois.